Ce soir, nous recevons Abdelmajid Charfi, professeur émérite et ancien doyen de la faculté de lettres et de sciences humaines de Tunis, pour une conférence intitulée « Penser l'islam aujourd'hui ». Cette leçon s'inscrit dans une série de 13 conférences consacrées au thème de l'islam d'aujourd'hui, proposées jusqu'au 13 octobre, en partenariat avec l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, de l'EHESS, et je vous signale que les prochaines conférences, le prochain cycle aura lieu au mois de janvier, du 9 au 17 janvier, autour d'une thématique non encore arrêtée. Alors je vais vous présenter brièvement Abdelmajid Charfi. Je le fais avec plaisir parce que nous avons travaillé ensemble à Tunis dans le cadre de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain et nous avons d'excellents souvenirs communs. Abdelmajid Charfi est, je dirais, après avoir vu hier et avant-hier l'islam de France et l'islam d'Europe à travers un certain nombre de coups de projecteur, sa multiplicité, nous allons maintenant aller au cœur de la pensée islamique. Abdelmajid Charfi est un islamologue distingué, il fait partie de ces acteurs de la pensée dans le monde islamique, un savant, et il interpelle, je dirais, la pensée islamique à travers la question de la modernité. Il interpelle à la fois la pensée et les penseurs et les intellectuels sur leurs responsabilités. Il a eu donc des responsabilités tout à fait importantes à l'université du Tunis. Il a été doyen de la fac de lettres et des sciences humaines. Il a occupé des responsabilités également auprès du ministère de l'enseignement supérieur. Et il a été, et ça c'était un élément tout à fait nouveau et intéressant dans le paysage scientifique en Tunisie, il a été le premier titulaire de la chaire UNESCO de religion comparée, ce qui, dans le monde arabe, était un événement. Dans le monde arabe et musulman, était un événement. C'est dire comment Abdelmajid Charfi est au cœur de ces problématiques sur les rapports entre islam et modernité et sur les rapports entre islam et autres religions. Il est également un des membres fondateurs du groupe de recherche du GRIC islamo-chrétien. Et donc aujourd'hui, il va nous entretenir sur cette relation toujours mise en question entre l'islam et la modernité. Cette d'ailleurs question qu'il traite dans ses nombreux travaux en arabe et en français, hein, il publie à la fois en arabe et en français, nombreux travaux sur par exemple la modernisation de la pensée islamique, donc publié à Casablanca en 1998, Islam et modernité à Tunis en 1990. Et plus récemment, un ouvrage sur le thème « L'islam entre le message et l'histoire », et vous verrez que nous sommes au cœur de la problématique, entre donc le message et l'histoire, chez Albin Michel, en octobre 2004. Je vous recommande tout particulièrement cet ouvrage. Plus récemment encore, à Beyrouth, en arabe, donc un ensemble d'ouvrages donc sur l'islam un et multiple, qui donc est une collection de 15 titres parus. Je vais m'arrêter ici dans cette présentation. Vous remercier encore d'avoir accepté de venir de Tunis avec un calendrier particulièrement chargé. Et je vous cède la parole donc pour 50 minutes.
Merci, cher ami. Mesdames et messieurs, les problèmes de tout genre que rencontrent les musulmans depuis une vingtaine d'années semblent défier toute analyse, tellement ils sont imbriqués. Problèmes démographiques, problèmes politiques, problèmes économiques, problèmes sociaux et problèmes culturels, y compris donc religieux. Bien malin celui qui pourrait affirmer en toute connaissance de cause que tel problème est strictement de tel ou tel ordre, malgré les discours proclamés. Il est par conséquent futile de vouloir isoler à tout prix ce qui relève de l'une ou l'autre cause, interne ou externe, historique ou récente, structurelle ou conjoncturelle. Qu'est-ce qu'on entend communément par penser une religion ? Si penser renvoie à la réflexion et à la critique, à une certaine distance entre le sujet et l'objet, ceux qui pensent l'islam ou le christianisme ou toute autre religion, si donc ceux qui pensent l'islam sont représentatifs ou non de ceux qui le vivent, voilà une question, à mon avis, très importante. Évitons d'utiliser à leur égard le concept de foi, pratiquement indéfinissable. Disons qu'il s'agit en l'occurrence avant tout d'une croyance. Or, croire, nous prévient Alain, est agréable. C'est une ivresse dont il faut se priver. Tout le monde en est-il capable? Il est permis d'en douter. Cela nous amène à rechercher un autre angle d'attaque afin de mieux comprendre le phénomène islamique qu'aujourd'hui, en ayant toujours à l'esprit que le présent n'est point détachable du passé, aussi bien récent que lointain. L'islam façonne, certes, les manières de vivre et de se comporter individuellement et en société. Mais les conditions culturelles, politiques et économiques ne sont pas moins déterminantes de ces manières d'agir et de se représenter les préceptes islamiques eux-mêmes. Il y a, à ce niveau, un va-et-vient entre la religion et la vie concrète, une dialectique sans laquelle beaucoup de manifestations de la religion seraient des aberrations pures ou des actes gratuits, fruits d'une imagination débridée. Sans aucunement prétendre à l'exhaustivité, rappelons brièvement les conditions dans lesquelles l'islam est vécu et revendiqué implicitement et explicitement. Ce sont en premier lieu des conditions d'un retard historique flagrant depuis le XVIIe siècle vis-à-vis de l'Occident, non seulement dans les domaines économiques et militaires, mais également dans le domaine scientifique et intellectuel. Héritier d'une civilisation florissante, mais somme toute de même nature que les civilisations anciennes, les musulmans se voient confrontés à une nouvelle forme de civilisation, commodément appelée la modernité, ayant pour centre l'homme et non plus Dieu, et pour horizon le progrès et non le bonheur ou la perfection morale. La prise de conscience de ces ruptures radicales avec leur univers mental s'est faite progressivement et dans la douleur. Et le constat de ce retard historique ne cesse de hanter les esprits. Il explique en grande partie les réactions des musulmans à l'encontre d'une modernité perçue comme exogène, pire, comme ennemi et comme agression caractérisée contre leur identité et leur intégrité physique et mentale. À cet égard, l'islam, en tant qu'ensemble de croyances et de formes d'organisation sociale, continue de jouer le rôle de rempart et de dernier retranchement contre les bouleversements subis à une vitesse accélérée. Le défi à relever supposait une remise en question en profondeur des bases de la connaissance et de l'organisation sociale en vigueur. Mais cette remise en question était entravée, contrairement au cas du Japon lointain et insulaire, était entravée par les menaces impérialistes et coloniales des puissances occidentales. Si le colonialisme est partout synonyme de spoliation et d'exploitation, il a été dans certaines contrées davantage que cela, à l'origine de l'émiettement du monde arabe en entités étatiques artificielles, souvent non viables, en particulier en vertu des accords Sykes-Picot en 1916. Il a été une cause de déstructuration totale de la société, comme en Algérie, et de dépossession systématique, comme en Palestine. C'est ainsi qu'il est possible d'identifier quatre grands domaines dans lesquels les musulmans accusent un retard préjudiciable, entre autres, à un aggiornamento de la pensée religieuse. Premièrement, les régimes politiques, particulièrement dans les pays arabes, sont des régimes fragiles, autocratiques et despotiques, dépourvus de légitimité historique, démocratique et représentative, ce qui les pousse naturellement à instrumentaliser l'islam en faveur d'une pseudo-légitimité religieuse. Évidemment, ils ne peuvent être alors que contestés par une surenchère de caractère également religieux visant la prise du pouvoir et enfermant de la sorte les sociétés dans un cercle vicieux, ne laissant qu'une marge très mince à la contestation purement séculière. Deuxièmement, les modes de production archaïques sont dominants. Ils sont les signes d'une économie de subsistance basée sur l'agriculture, le petit négoce et l'artisanat. Sur ces modes archaïques est venue se greffer dans certains pays la rente pétrolière, de nature à masquer les problèmes de sous-développement et à retarder les réformes de structure nécessaires. La conséquence de cette situation est que les mentalités n'ont pas évolué sous l'influence d'une industrialisation générale et qu'on a pu se passer dans les pays producteurs de pétrole de la main-d'œuvre féminine par l'importation d'une main-d'œuvre à vil prix venant des Philippines, du Sri Lanka et d'autres pays asiatiques. En d'autres termes, et en dépit de différences importantes entre les pays musulmans, les facteurs d'émergence d'une nouvelle vision du monde ne sont pas suffisamment déterminants pour supplanter l'ancienne vision, d'où une cohabitation chaotique des deux visions, source de bien de tiraillements et de tensions. Troisièmement, la situation de la culture et de l'éducation est préoccupante. La censure qui sévit un peu partout et le taux élevé d'analphabétisme font que le nombre de livres produits chaque année est dramatiquement bas, ainsi que le nombre de traductions, la recherche scientifique est squelettique et le nombre de brevets d'invention est quasiment nul. Les bibliothèques publiques sont rares et très mal fournies. Les systèmes d'enseignement établis depuis les indépendances sont généralement médiocres. Même dans les cas où les taux de scolarisation sont élevés et correspondent aux normes internationales, les contenus des programmes et les méthodes d'enseignement favorisent l'effort de mémoire plus que la réflexion et le développement du sens critique et l'esprit d'initiative. Il en résulte que l'effort financier, parfois très important, consenti par les États, ne donne guère les résultats escomptés, et que les générations qui quittent prématurément le système ou qui en sortent diplômées viennent gonfler le flux des chômeurs et des aigris au lieu d'être les principaux vecteurs d'un changement des modes de pensée et d'action. En matière d'enseignement religieux, et à l'exception notoire de la Tunisie où la pensée islamique est assurée dans les facultés des lettres par des universitaires y appliquant les méthodes des sciences humaines, cet enseignement est partout ailleurs dogmatique et monopolisé par les représentants de l'institution traditionnelle et officielle. Quatrièmement, la structure patriarcale de la famille, bien que secouée par une urbanisation rampante, résiste tant bien que mal. Les solidarités claniques et régionalistes sont encore très fortes. s'y ajoutent parfois les solidarités confessionnelles, comme au Liban, en Syrie, en Irak, en Égypte, et même linguistiques, les berbérophones en Algérie et au Maroc, et ethniques, le cas des Kurdes est connu. Et la condition inférieure de la femme se maintient, à de rares exceptions près, par des législations iniques et moyenâgeuses, et aussi par des pressions s'exerçant au nom de l'islam et mobilisant l'opinion publique influencée par les discours obscurantistes véhiculés sciemment par les chaînes de télévision satellitaires détenues en majorité par les capitaux pétroliers et diffusant à fond perdu dans le but délibéré de perpétuer les régimes sociopolitiques les plus rétrogrades. Le domaine de la santé étant probablement celui où les progrès sont incontestables, il en résulte une démographie galopante qui non seulement absorbe les fruits de la maigre croissance au lieu d'élever de façon tangible les niveaux de vie, mais génère au sein de la famille et de la société une crise de valeurs réelles exacerbée encore par la crise de valeurs universelles comme conséquence de la globalisation et du règne des lois du marché et de l'enrichissement individuel rapide et facile, quels qu'en soient les moyens. Ces conditions ne doivent pas, avons-nous dit, être perdues de vue lorsqu'on aborde les problèmes de la pensée islamique en eux-mêmes, car ceux-ci sont influencés, déterminés même par les circonstances historiques dans lesquelles cette pensée s'exerce. Nous essaierons de le montrer en évoquant les questions les plus importantes auxquelles l'islam est confronté. La première est incontestablement celle du rapport avec la tradition, avec un grand T, dans le sens le plus général du terme. On sait que la tradition est à la base de la socialisation dans les sociétés appelées justement traditionnelles, où les savoir-être et les savoir-faire sont acquis et transmis tels quels dans le cadre de la famille, du groupe ou de la tribu. Les croyances religieuses et les rites qui leur servent de support font naturellement partie de ce qui est appris et pratiqué dans le respect scrupuleux des formes et des contenus. Ils acquièrent ainsi un caractère d'évidence qui est le ciment des rapports sociaux et qui les met à l'abri de toute contestation de leur statut sacré. C'était le cas en particulier des sociétés occidentales chrétiennes jusqu'à la fin du Moyen Âge. C'était aussi le cas des sociétés orientales, à majorité musulmane, mais jusqu'au XIXe siècle, avec un décalage de 2 ou 3 siècles. Mais si la tradition a été bousculée dans le premier cas de l'intérieur de ces sociétés, sous l'effet progressif et conjugué de la Renaissance, de la Réforme, des Lumières, du mouvement des inventions techniques et des découvertes scientifiques et de l'industrialisation, ce qui les a amenés à une adaptation plus ou moins harmonieuse avec les nouvelles données, la tradition dans les sociétés musulmanes a été remise en cause d'une manière soudaine et brutale au contact de l'Occident impérialiste. Ayant reçu le choc de la modernité, et n'étant guère préparée aux transformations de tout ordre qu'elle implique, les difficultés d'adaptation se sont multipliées pour elle et ont abouti aux réactions les plus contrastées, allant de la fascination pour tout ce qui est occidental au rejet pur et simple de tous les apports de la modernité et surtout des apports des sciences modernes de l'homme et de la société, et de ce qu'elle entraîne comme nouvelle vision du monde et de la condition humaine. Dans le domaine religieux qui nous intéresse ici, il s'agit au premier chef de redéfinir le statut du Coran. Est-il ainsi que le proclame la tradition, un texte exclusivement divin dans son contenu et dans sa forme, dicté d'une manière surnaturelle au prophète Mohammed, le rôle de celui-ci étant purement celui de transmetteur passif, ou bien le Coran étant en langage humain Est-il pour le croyant divin par son origine et son inspiration, mais également éminemment humain dans la mesure où la personnalité du prophète, sa culture et ses conditions de vie individuelles et communautaires ne pouvaient pas ne pas intervenir dans l'élaboration de ce texte sacré. Il est remarquable que la conception mythique traditionnelle de la révélation est celle qui a le plus cours en milieu musulman. Ceux qui éprouvent des difficultés à l'admettre finissent souvent par un rejet absolu de l'islam, mais subrepticement et discrètement. Pourtant, le croyant peut admettre que le prophète avait un rapport privilégié avec la divinité, une expérience du divin peu commune, dont le discours coranique rendait compte dans un langage imagé, allusif, métaphorique, usant pour emporter l'adhésion de ses auditeurs, des reprises, des rappels et des répétitions, des récits et des paraboles. Un langage poétique, en somme, mais une poésie qui emprunte certes à la prose rimée des devins arabes préislamiques, comme au procédé biblique, mais une poésie de haut vol, bien particulière, qui tranche avec les discours ordinaires. Le discours coranique est, on l'oublie souvent, un discours oral. Ce caractère est perceptible dans le corpus officiel où il a été consigné. Dans le mushaf othmanien, réuni, selon la terminologie consacrée, quelques 20 ans après la mort du prophète. Certains orientalistes de l'école anglo-saxonne, notamment, mais pas exclusivement, depuis l'apparition en 1977 de la thèse de John Wansbrough, Quranic Studies, et du livre de Michael Cook et de Patricia Crown, Agarisme, ont défendu l'idée d'une élaboration par des scribes compositeurs tout au long des 2 premiers siècles de l'islam du texte coranique. Cette thèse, à notre avis, ne tient pas. Elle a été d'ailleurs infirmée par la découverte fortuite en 1972 des manuscrits de Sana'a, dont certains remontent certainement au 1er siècle de l'Égypte. C'est qu'on a voulu, inconsciemment peut-être, appliquer au Coran le schéma qui a prévalu pour l'Ancien et surtout pour le Nouveau Testament. Les lectures coraniques orthodoxes ou pas, et les variantes du texte scrupuleusement notées par les érudits des 3e et 4e siècles égyriens, témoignent au contraire de l'opération à mains égards arbitraires du passage du discours oral au discours écrit, fondé en grande partie sur la mémoire, la calligraphie arabe étant encore déficiente à cette époque primitive. La situation du discours originel étant irrémédiablement perdue pour les générations qui n'étaient pas contemporaines de la révélation, le rapport au texte sacré a radicalement changé, quoique progressivement. Le mushaf est ainsi devenu susceptible théoriquement d'un nombre illimité d'interprétations. Mais de toutes ces interprétations potentielles, seules celles qui correspondaient aux attentes de leurs auteurs, à leurs valeurs sociétales et généralement à leurs conditions historiques, seules ces interprétations-là se sont imposées comme valables et même traduisant le sens unique du texte. Le processus de passage de l'oral à l'écrit, du Coran au Mushaf, n'aurait pas eu des conséquences durables, infligeant au texte fondateur des infléchissements et des perversions graves par leur portée symbolique, s'il n'avait pas eu lieu en même temps qu'une quête de justification religieuse et de légitimation des rapports sociaux en usage et des institutions de l'Empire musulman au temps de sa naissance et, plus encore, au temps de son extension et de sa consolidation. En d'autres termes, les interprétations du Coran qui nous sont parvenues dans les premières exégèses datant du IIIe siècle reflétaient les préoccupations des musulmans après le mouvement des conquêtes et la constitution dans le vaste champ de l'Empire des communautés musulmanes d'origine arabe ou converties, beaucoup plus que les préoccupations et les manières de comprendre des destinataires premiers du message prophétique. L'attachement à la littéralité du texte en particulier ne s'est généralisé qu'à partir du moment où le Coran est devenu pratiquement un code juridique contraignant, en fait plus théorique que réel, d'autres sources du droit lui faisant concurrence et le reléguant au statut de référence ultime, plus ou moins fictive. Cependant, le rapport au texte tel que nous l'avons défini s'inscrit dans le cadre de notre processus beaucoup plus large et aux effets multiformes. Et penser l'islam aujourd'hui consiste en priorité à prendre et à faire prendre conscience de ce processus historique et à le déconstruire. Une opération difficile qui requiert des compétences de toutes sortes, car il n'est guère facile de traverser les couches épaisses et successives des interprétations et des manipulations qui se sont exercées sur le texte pour remonter au message originel et appréhender toute sa richesse et sa profondeur. Se débarrasser en outre des concepts philosophiques hérités en grande partie de la conscience mythique dominante et des catégories de la pensée grecque qui lui ont été collées au cours des efforts de rationalisation du donné révélé. Le saisir en somme dans sa globalité et dans ses intentions, non dans ses injonctions circonstancielles. La déconstruction en question remettrait d'abord en cause, renverserait même l'idée très répandue que les premières générations de musulmans, les plus anciens, les salaf salih, avaient une meilleure connaissance et une meilleure application des préceptes de l'islam, et que les générations suivantes sont vouées à s'en écarter toujours davantage. Cette vision n'est plus recevable dans la mesure où l'islam naissant, avait besoin de temps pour être intériorisé, qu'il n'avait pas procédé à un lavage de cerveau, et que les esprits des premiers musulmans étaient encore imbibés de croyances et de perceptions du monde et de la société qu'il était impossible d'effacer d'un coup et de remplacer par celles qu'il a portées. Par ailleurs, elle ne tient pas compte de l'accumulation chaque jour plus importante des savoirs humains et des éléments de la culture universelle, surtout à notre époque. En fait, les premiers musulmans qui avaient en charge de mettre en application ce qu'ils comprenaient de l'islam ne pouvaient le faire que dans le cadre des systèmes cognitifs et sociaux à leur disposition. Leurs solutions étaient dictées par des impératifs qui ne sont plus les nôtres. S'y conformer revient en définitive à couper le lien entre la religion et la vie, alors que le maintien de ce lien est paradoxalement l'objectif déclaré de ceux qui sont attachés à la vénération du passé et des anciens, plus proches à leurs yeux, sans qu'ils se l'avouent, des anges que des humains soumis à une multitude de contraintes et sujets entre autres de désirs, d'ambitions, d'amour et de haine. Ainsi, la mise en application des préceptes de la nouvelle religion n'a pu se réaliser qu'à travers le phénomène présent dans toutes les traditions religieuses, celui de l'institutionnalisation par trois opérations simultanées. Premièrement, par la confessionnalisation, par laquelle le groupe de la Oumma en gestation se démarque des autres groupes confessionnels, juifs, chrétiens, manichéens, zoroastriens, polythéistes, etc., et se superpose aux anciennes identités tribales par des comportements, des attitudes et des manières de se vêtir, de boire et de manger différentes. Deuxièmement, par la ritualisation qui consiste à tourner le dos à la souplesse et à la spontanéité qui ont marqué la pratique des actes cultuels du temps de la révélation, pour les remplacer par un ensemble unifié de rites codifiés de façon rigide auxquels le croyant doit se plier impérativement. Et troisièmement, par la dogmatisation qui délimite les croyances orthodoxes par rapport aux hérésies et aux déviances. Elle inclut de la sorte les doctrines du Coran incréé, que Dieu est l'unique législateur dont les fuqaha, les jurisconsultes, ne sont que les interprètes de sa loi, que tous les compagnons du prophète sont honorables et dignes de confiance, que les actes humains sont prédestinés, etc., etc. Il est évident que l'institutionnalisation sous ces trois formes ne s'est pas installée du jour au lendemain. Au contraire, certaines de ces manifestations ne se sont imposées qu'au bout de deux ou trois siècles d'affrontements, de débats, de tâtonnements et d'emprunts aux cultures environnantes. Mais son développement et sa logique étaient implacables, car dans la nature des choses, étant donné la forte imbrication du politique, du social, du culturel et du religieux proprement dit. Dans le même ordre d'idées, on a assisté à une véritable transfiguration de la personne du prophète, devenue au fil des jours et des années, malgré l'affirmation du Coran qu'il n'est qu'un simple mortel chargé de transmettre le message divin, devenu un être suprahumain, auquel on a collé tous les idéaux et toutes les aspirations des hommes de son temps, et même leurs fantasmes sexuels, entre autres. La tradition vivante n'était alors pas suffisante pour alimenter cet archétype dans toutes les contrées islamiques. C'est donc la tradition textuelle qui prit sa place. Le hadith est né de ce besoin, ainsi que la normativité des actes et des paroles du prophète, c'est-à-dire la nécessité de se conformer aux moindres faits et gestes de Mohammed consignés au IIIe, IXe siècle dans les recueils de traditions prophétiques dites authentiques. Penser l'islam aujourd'hui, c'est aussi, par conséquent, démasquer le caractère trompeur de ces traditions qui prétendent refléter fidèlement les volontés du prophète, alors qu'elles ne sont et ne peuvent être que des représentations influencées de bonne ou de mauvaise foi par des facteurs historiques susceptibles d'être analysés et éclaircis, au moins dans leurs grandes lignes et dans leur texture générale, par les méthodes des sciences humaines et sociales modernes. Il en va ainsi non seulement des autres fondements du droit musulman, en particulier du consensus, ijma', et de l'analogie, qiyas, mais surtout des présupposés qui sont à la base de tout l'édifice des règles jurisprudentielles appelées abusivement la charia. À titre d'exemple, affirmer à la suite de Shafi'i, qui ne fait que traduire une conception commune à ses contemporains, affirmer que tous les actes humains, sans exception, doivent nécessairement obéir à l'une des cinq qualifications légales ou statuts, ahkam, qui sont, par ordre décroissant, l'obligatoire, le recommandé, le permis, le répréhensible et l'illicite. Affirmer cela n'est que l'expression d'une situation où tous les aspects de la vie sont sacralisés, autrement dit, d'une aliénation dont il est urgent de se débarrasser. De même, considérer qu'il faut prendre au pied de la lettre les versets coraniques et ne pas tenir compte des circonstances particulières qui sont à leur origine, c'est le fameux Al-Abra bi Umum al-Lafz bi Khusus al-Sabab, un principe bien connu dans les fondements du droit, ou que l'effort de réflexion personnelle, ijtihad, ne s'applique qu'en l'absence du texte explicite, l'ijtihad fi ma fihi nas, ou que le tawatur, c'est-à-dire la présence de plusieurs transmetteurs d'une même tradition, conduit à une connaissance certaine, ou qu'il est interdit de revenir sur un consensus élaboré par une génération antérieure, et tant d'autres présupposés similaires, considérer qu'ils sont encore valables aujourd'hui, c'est méconnaître qu'ils sont les pièces d'un édifice humain, juridique, social et politique qui avait joué pleinement son rôle dans le passé, mais qui est maintenant tombé complètement en ruine sous l'effet de la modernité. Cet édifice avait l'avantage de préserver l'équilibre social, de fournir les éléments d'une organisation solide et bien structurée. Et, malgré la solidarité qui unissait les tenants du pouvoir politique et les représentants de l'institution religieuse, a su instaurer un certain état de droit, que je mets entre guillemets, dans la mesure où les hommes politiques, donc le pouvoir exécutif, n'avaient qu'une emprise très limitée sur le pouvoir judiciaire des fuqaha, car ils n'étaient pas habilités à dire le droit, ni même à l'appliquer dans les affaires courantes. Ils avaient certes les mains libres dans l'exercice du pouvoir, et n'étaient pas soumis dans cet exercice au moindre contrôle, mais en contrepartie, c'étaient les gestionnaires du sacré qui avaient en charge exclusive l'encadrement de la population, qui assurait la socialisation et l'organisation symbolique et matérielle de la vie en matière de relations familiales, donc de statut personnel, mariage, divorce, héritage, etc., en matière d'éducation, de santé, d'aide aux nécessiteux, de tutelle des orphelins, etc. La solidarité entre les représentants de l'institution politique et les représentants de l'institution religieuse était dictée par les besoins des premiers de jouir d'une légitimité que seuls les seconds pouvaient accorder, et en contrepartie par la nécessité pour ceux-ci de bénéficier des privilèges moraux et matériels et de l'appui efficace que leur octroyaient les gouvernants. On doit reconnaître que l'équilibre instable, ainsi instauré depuis le milieu du IIIe, IXe siècle, est un phénomène particulier à l'histoire de l'islam et qu'il n'a pas d'équivalent exact dans les autres systèmes juridico-religieux historiques. D'un côté, il a été incapable de produire une théorie du pouvoir fondée sur autre chose que sur la force brutale. D'où l'instabilité et la fragilité qui ont marqué les régimes musulmans successifs. De notre côté, il a su préserver, en règle générale, l'autonomie de ce qu'on appelle dans nos catégories actuelles la société civile, et mettait malgré tout un frein puissant à l'arbitraire du pouvoir. Penser l'islam aujourd'hui, c'est donc aussi admettre que ce type d'organisation n'est plus valable et qu'il est vain de poursuivre la chimère de sa restauration, ainsi que l'ont tenté les talibans afghans et que les mouvements islamistes de toute obédience en rêvent, qu'ils soient wahhabites, khoménistes, frères musulmans ou autres. Il ne convient pas à ce propos de mettre en doute leur aspiration authentique face à des régimes despotiques tentaculaires installés après la chute du califat et la fin de la colonisation, à limiter le pouvoir de l'État en faveur de l'application de leur conception de la loi de Dieu. Or, cette aspiration, aussi légitime soit-elle, ne tient pas compte de deux facteurs essentiels, sans lesquels elle s'écroule et n'a aucune chance de réussir. Le premier est que l'État-nation moderne est une organisation qui s'impose partout dans le monde, et que même si on essaie de s'en échapper, c'est par l'intermédiaire d'un dépassement dans le cadre d'entités politiques plus larges à l'instar de l'Union européenne, par exemple, ou par le moyen des conventions internationales super-étatiques, mais jamais par le retour au système d'empire dont les frontières s'étendent et se rétrécissent en fonction des rapports de force et qui admet la coexistence en son sein de législations différentes, notamment sur une base confessionnelle. Le second facteur est la fiction d'une loi divine dont les hommes qualifiés, les ulama, ne sont que les interprètes fidèles. La connaissance historique moderne, chaque jour plus affinée, s'est chargée de détruire cette fiction en montrant le caractère humain, trop humain, du fiqh, dont les prescriptions sont déterminées par les contextes culturels, sociaux et économiques d'une époque bel et bien révolue. En d'autres termes, le despotisme qui sévit dans le monde arabo-musulman ne peut être combattu efficacement qu'à l'aide de contre-pouvoirs institutionnels dont la forme de l'État califal traditionnel était dépourvue. Les moyens de surveillance, de contrainte et de coercition dont dispose le pouvoir politique dans les États du XXIe siècle ne peuvent plus être tempérés par l'autorité religieuse impossible à rétablir alors que la sécularisation est une vague de fond à laquelle aucune société moderne ou en voie de modernisation n'échappe et qui traverse toutes les sociétés en atteignant non seulement les modes de vie, mais également les éléments de la culture et la vision du monde. Quant à la place de la charia, elle est obligée de la céder au profit du droit positif, chose déjà faite pour la majorité des domaines du droit, et ne résistant plus à son emprise dans les esprits plus que dans les faits, que le statut personnel et certains résidus de la justice pénale traditionnelle concernant le vol, l'adultère, la consommation de vin et accessoirement l'apostasie. Parce que les musulmans dans leur ensemble ne sont pas en mesure de s'approprier les acquis de la modernité dans un rapport de force qui leur est favorable, comme c'était le cas au premier siècle de l'islam, lorsque les Arabes avaient emprunté facilement pas mal de faits de civilisation aux peuples voisins, ils ont peur de ne plus être de bons musulmans en s'écartant des normes ancestrales. Une vision essentialiste de la religion s'installe donc, partagée d'ailleurs, notons-le au passage, par les tenants du fameux choc des civilisations, plus digne d'être appelé à la suite d'Edouard Saïd, choc des ignorances, et qui rappelle plutôt la pensée moyenâgeuse, selon Norman Daniel, un excellent connaisseur du Moyen-Âge latin. Le paradoxe est que beaucoup d'Occidentaux, qui utilisent à propos de n'importe quel sujet les paramètres de la modernité, butent dès qu'il s'agit d'islam sur les clichés et les stéréotypes qui ont cours à son sujet, comme s'ils avaient encore en tête les conflits et les tensions qui ont jalonné dans le passé les rapports du monde musulman avec la chrétienté. Il n'est pas question, bien évidemment, qu'ils se substituent aux musulmans dans leur effort de renouveler la pensée islamique. Mais on est en droit de leur demander moins de condescendance et de paternalisme, pour ne pas parler de racisme, et qu'ils soient solidaires des courants qui, de l'intérieur de l'islam, essaient d'arriver à son aggiornamento, d'autant plus que l'islam est devenu une composante incontournable du paysage européen lui-même, et que la crise de la pensée islamique rejaillit inéluctablement si elle s'exaspère sur la démocratie occidentale, au risque de remettre en question la notion de droit humain chèrement acquise. Nous osons affirmer, quant à nous, qu'une nouvelle interprétation du Coran et des textes fondateurs est non seulement possible, mais qu'elle est plus fidèle à l'esprit et à l'objectif ultime du message mohammedien. Nous retenons à cet égard deux principes majeurs qui devraient guider la lecture du texte sacré. Le premier est que la clôture de la prophétie proclamée par Mohammed signifie, ainsi que l'a proclamé le premier dès 1928 Mohammed Iqbal, le grand philosophe, poète et mystique indien, signifie la fin du besoin qu'a ressenti l'homme depuis la nuit des temps de s'appuyer sur les forces surnaturelles dans la conduite de ses affaires. C'est ce que nous avons appelé pour notre part le scellement de la prophétie de l'extérieur, une décision qui ouvre des horizons illimités où s'exerce pleinement la liberté individuelle et la responsabilité personnelle du croyant, toutes deux affirmées avec force dans le Coran. Le second principe majeur est la contextualisation des versets auxquels on a appliqué abusivement un caractère législatif, alors qu'ils ne contiennent en réalité que des exhortations morales et des réponses à des problèmes circonstanciels vécus par la première communauté musulmane. Rappelons d'ailleurs que la signification du shara, de la shara ou de la sharia, est la voie, la direction à suivre, mais nullement un code juridique divin strict et figé, révélé définitivement et pour l'éternité. Ce sont bien les fuqaha qui ont considéré et fait croire que leurs interprétations et les prescriptions qu'ils édictaient sont l'expression de la volonté divine. Sans remettre en cause la bonne foi des ulama de l'islam classique, on ne peut néanmoins ne pas remarquer qu'ils étaient sous la coupe d'une aliénation mentale qui les empêchait d'affronter la réalité dans sa nudité et d'admettre la fragilité de l'ordre social humain. Si les anciens avaient besoin d'intérioriser la sacralité des institutions sociales de leur milieu, en particulier dans la régulation des relations sexuelles, en les organisant au sein de la famille, et dans la légitimation religieuse du pouvoir politique, le musulman moderne, comme tous les hommes de notre temps, ne peut pas continuer à ignorer le tragique de sa condition et à faire comme si les conquêtes de la connaissance au dernier siècle n'avaient pas réussi à dévoiler les subterfuges par lesquels l'humanité a essayé, dans le passé, d'échapper au chaos qui guettait les relations sociales en parsemant la vie de toutes sortes de tabous. L'urgence de la prise de conscience de ce changement radical de perspective n'est pas dictée uniquement par des considérations théoriques. Ce sont les réalités de notre temps qui démontrent l'impossibilité du retour aux normes et aux pratiques ancestrales. Dans cet ordre d'idées, il nous suffit de nous arrêter sur les rapports hommes-femmes qui sont, avec le pouvoir politique, au centre des intérêts des islamistes et qui sont un sujet récurrent dans les publications, les presses et sur Internet. Les considérations morales sont mises en avant à tous les coups lorsqu'il s'agit de perpétuer ces rapports inégaux. Les fondamentalistes sont hantés par le corps de la femme. Ils fantasment sur les attributs féminins et occultent la dimension humaine, personnelle et intellectuelle de la femme. Toutefois, ils oublient à ce propos que la morale n'est qu'une construction humaine susceptible d'évolution dans le temps et dans l'espace, et qu'elle est liée aux conditions historiques qui la font admettre par le plus grand nombre. La relativisation des mœurs est pourtant inscrite dans l'évolution des sociétés. En l'occurrence, on n'a même pas besoin de recourir aux thèses féministes ou aux résultats des gender studies pour constater l'inégalité foncière qui frappait tous les membres des sociétés traditionnelles sans exception, les femmes étant placées dans tous les cas au bas de l'échelle sociale, juste avant les esclaves, avec des droits et des devoirs moindres que ceux des hommes libres. Cette inégalité n'est plus de mise de nos jours. Ainsi d'ailleurs que la pauvreté, perçue autrefois comme une fatalité, est rejetée maintenant comme une atteinte à la dignité. Cependant, même si la femme musulmane citadine était cloîtrée et obligée de se voiler complètement dans la rue, et même s'il était admis que l'homme pouvait se marier avec 4 femmes à la fois, la polygamie était loin d'être la règle pour la simple raison que le sexe ratio humain est toujours le même à travers l'histoire et les pays. et que c'était seulement les circonstances particulières, notamment les guerres, qui le changeaient et augmentaient le nombre des femmes par rapport à celui des hommes. De même, les mariages se déroulaient généralement à un âge précoce et les remariages, pour cause de divorce ou de décès du conjoint, étaient très courants. Les enfants en bas âge étant systématiquement à la charge de la famille élargie. En outre, les rapports sexuels entre les hommes libres et les femmes de condition servile n'étaient soumis pratiquement à aucune restriction. Il y avait donc, malgré tout, dans l'histoire musulmane, une satisfaction sexuelle indéniable, confondue par les missionnaires chrétiens du XIXe siècle avec la dissolution des mœurs. Le rattachement du sexe au péché originel et le célibat, même chez les mystiques, étant inconnu au milieu musulman. Une simple comparaison avec la situation actuelle fait ressortir à ce niveau des différences fondamentales entre le passé et le présent des sociétés musulmanes. L'émergence de la famille nucléaire, les difficultés pour les jeunes couples de trouver un logement, le prolongement de la durée des études, le travail féminin en dehors du foyer, avec pour corollaire le recul de l'âge du mariage, autant de facteurs qui sont de nature à bouleverser les normes du passé. Mais les mentalités tardent à suivre le mouvement de ces changements. L'homme rechignant à renoncer à sa supériorité juridique et à ses privilèges. C'est ainsi que, par exemple, que sous la pression de l'opinion publique, la virginité de la jeune fille est toujours exigée lors du mariage, que la dot est inscrite dans le droit positif comme dans le fiqh, bien que les raisons de son institution aient disparu, ainsi que le délai de vacuité pour la femme veuve ou divorcée, alors qu'un test banal est capable de déterminer si la femme est enceinte ou non. Et l'on assiste chez les jeunes à une frustration sexuelle dont l'illustration parfaite est fournie par les événements du Caire au cours de l'Aïd en novembre 2006, qui ont vu des bandes de jeunes harceler de façon inouïe dans la rue les femmes de tout âge et de toutes conditions, voilées ou pas. Les discours des représentants de l'institution religieuse et des nouveaux prêcheurs de télévision prônant la chasteté et appelant les femmes à se voiler afin d'éviter la tentation, mais admettant toujours la supériorité ontologique masculine, et n'ayant en vue que l'intérêt égoïste et mal compris des hommes, ne sont manifestement d'aucun secours. Penser l'islam aujourd'hui, c'est donc dans ce domaine vital contextualiser les versets coraniques qui semblent constituer une entrave à la reconnaissance pleine et entière de l'égalité entre les sexes. Comme en matière de reconnaissance de la liberté de croyance, d'autres versets et de nombreux exemples dans la vie du prophète vont dans le sens de cette exigence d'égalité. Il n'y a guère de nécessité de les solliciter outre mesure dans ce sens, car ils sont en harmonie avec l'esprit du message prophétique et avec sa visée fondamentale qui est, rappelons-le, la promotion de la liberté individuelle et de la responsabilité personnelle, sans aucune distinction de sexe, de couleur ou de condition sociale. Notre conviction intime et profonde est que l'islam peut être interprété et vécu en conformité avec les valeurs de la modernité et le respect des droits humains universels et inaliénables. Les combats d'arrière-garde que mènent les islamistes et les gouvernants qui instrumentalisent la religion à des fins politiques et idéologiques sont en contradiction avec l'épanouissement spirituel recherché par tout musulman honnête et conséquent. Ils sont également en contradiction avec la sérénité qui imprègne les façons multiformes dont les masses musulmanes, dans leur majorité, vive un islam ouvert et tolérant, ni dogmatique, ni ritualiste, ni rigoriste, ni littéraliste. Il y a là, à n'en pas douter, des signes d'espoir à cultiver et à encourager, non seulement par la diffusion de la bonne parole dans les médias et les programmes d'enseignement, et par la vulgarisation des résultats de la recherche académique, mais aussi et surtout en s'attaquant aux causes profondes des blocages, des tiraillements, des injustices et des humiliations que vit le monde musulman. Je vous remercie.
Merci pour ce tableau à la fois sombre et ce message d'espoir. Nous allons passer maintenant à quelques questions. Alors, je vous demanderai de poser ces questions brièvement, qu'elles ne soient pas naturellement des commentaires, mais des vraies questions. Monsieur, qui est ici.
Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cet exposé profondément original, qui nous apporte en tous les cas à moi des aperçus tout à fait nouveaux. Mais pour préciser les choses, je voudrais vous, poser un peu la question précise, si vous voulez, sur la polygamie. Le prophète lui-même a pratiqué la polygamie. Alors, selon vous, est-ce un précepte divin ou est-ce un précepte tout à fait modifiable ?
Vous pouvez répondre à la question directement.
D'accord. Oui, le problème de la polygamie se pose un peu partout dans le monde musulman, à part l'Égypte, où la polygamie a été interdite par la loi depuis maintenant 51 ans. C'est en vertu d'une interprétation d'un verset coranique. Et cette interprétation, du point de vue purement grammatical et linguistique, ne tient pas, parce que c'est une phrase conditionnelle. Je lis le verset en arabe, puis je vais essayer de le traduire. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Si vous craignez d'être inéquitable envers les orphelins. Vous pouvez vous marier avec deux, trois ou quatre femmes. Donc, les fuqaha, les jurisconsultes, n'ont retenu que la deuxième partie de la phrase. Et ils n'ont pas considéré que c'était lié à une condition particulière, c'était la condition des orphelins. Mais que ce soit ce verset-là qui est responsable de la polygamie ou le comportement du prophète, cela ne change strictement rien au fait que la polygamie était admise dans la plupart des sociétés traditionnelles. Et donc, c'est ce que je disais dans mes propos tout à l'heure, il s'agit de contextualiser les textes qui sont devant nous. Ces textes avaient leur valeur dans un contexte historique déterminé. Ils ont perdu cette valeur aujourd'hui. Et le prophète, effectivement, était polygame. Il avait plus de quatre épouses. Mais c'est parce que tous les leaders, tous les chefs, se permettaient, en règle générale, d'avoir plusieurs épouses, en fonction des relations qu'ils pouvaient avoir avec les tribus, avec les forces politiques en présence, en fonction de plusieurs facteurs. Et c'était admis par la mentalité de l'époque. D'ailleurs, la majorité de ces femmes, c'était des femmes de sa tribu à lui. n'avait pas contacté de mariage avec d'autres femmes, d'autres tribus, et en général des veuves qui avaient des enfants parce que il avait besoin d'un rapport privilégié avec le père de la femme, etc. Donc il y avait des circonstances particulières qui expliquaient cet état de fait, et il ne s'agit pas de considérer aussi bien la vie du prophète que les versets comme ayant une valeur normative. Voilà la position que je défends aujourd'hui.
Parlez fort.
Marche ou pas? Oui. Alors, moi, je vais m'arrêter sur votre conclusion qui me semblait extrêmement optimiste, parce qu'il y a une chose qui m'interpelle aujourd'hui. Nous qui sommes laïcs, musulmans, athées, agnostiques ou autres, qui essayons de lutter aujourd'hui par rapport à la montée islamiste et par rapport à une islamisation qui est en train de se faire en profondeur dans la société musulmane, hein, c'est pas dans les différentes sociétés musulmanes. Il y a une islamisation rampante, il y a un retour qui transparaît même au niveau du vocabulaire, au quotidien, sur les pratiques. Il y a une demande de règles et de cadres et de repères extrêmement frappants. Et à côté de ça, on a une instrumentalisation par les pouvoirs en place de la question de l'islam aussi, et une espèce de rivalité entre d'un côté les islamistes qui essayent de tout normer, de tout cadrer, et puis de l'autre côté des pouvoirs qui vont jusqu'à mettre en place, comme en Tunisie, Ben Ali vient d'initier une radio libre, alors que toutes les radios libres sont quasi interdites, la gauche ne peut pas s'exprimer, les laïcs n'ont aucun espace, et une radio les Zaytouna. À côté de ça, moi, M6 au Maroc initie une réformette au niveau des statuts des femmes, ils la justifient par la religion, et ils sont une espèce de surenchère où ils s'inscrivent dans, non pas en rupture, mais dans la continuité à qui a une légitimité. Face à cela, quelles réponses peuvent apporter les gens comme vous et moi, et tous les gens qui contestons et qui essayons de dénoncer, qui ne disposons d'aucun espace aujourd'hui pour nous exprimer. Aujourd'hui, à Tunis, ou au Maroc, en Algérie ou ailleurs, une réunion comme celle-là, un colloque comme celui-là, ne peut pas se tenir. C'est ça notre réalité aussi. Donc, comment y répondre ?
Je pense qu'il est quand même un peu exagéré de considérer qu'une réunion comme celle-ci ne peut pas avoir lieu dans nos pays. Moi, personnellement, j'ai participé à maintes manifestations où j'ai tenu à peu près le même langage que je tiens devant vous aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui, dans nos pays, pensent la même chose et s'expriment sur ces sujets. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat public. Dans une enceinte universitaire, dans le cadre d'une conférence, etc., ça se passe. Mais pas à la radio, pas à la télévision, pas dans les journaux, sur les journaux contrôlés en règle générale par l'État. C'est ça le problème. Ce n'est pas que les gens ne pensent pas de cette façon ou de telle autre. Non. Le problème, c'est que on ne connaît pas d'une façon scientifique l'état d'esprit de la population. Si on faisait un référendum et que les gens étaient informés, quelle serait la réponse de la majorité des musulmans? Moi, je pense que, d'après un peu les sondages que des collègues sociologues ont fait, il y aurait une minorité qui se rattacherait profondément à la tradition. Et qu'il y a au contraire une volonté de modernisation à tous les niveaux. Mais là encore, le problème est politique, il n'est pas religieux.
Bonsoir, monsieur. Je voudrais que vous m'éclairiez sur deux questions, s'il vous plaît. Enfin, je pense qu'elles sont liées l'une et l'autre. J'aimerais savoir un petit peu plus précisément quelle est la place de l'exégèse dans les études religieuses actuellement. Est-ce qu'elle est mise en rapport avec la philosophie et d'autres savoirs? Dans quelles limites par rapport au passé, hein, comment ça se fait actuellement? Et en fait aussi, quelle pourrait être la place des grands mystiques comme Ibn Arabi ou Rumi dans une relecture de l'islam? Voilà.
Je n'ai pas très bien compris la première partie de votre question.
Pardon, excusez-moi.
J'essaierai de répondre à la deuxième.
Oui.
Mais quelle est la première partie?
Excusez-moi, oui, ma question était concernant la place de l'exégèse dans les études religieuses actuellement. Quelle est la place de l'exégèse par rapport à d'autres savoirs et par rapport à la philosophie notamment?
Oui. Aujourd'hui, il faut dire que l'exégèse coranique classique est véritablement éclatée. Avant, l'exégèse était solidaire de ce qu'on appelait les sciences islamiques, c'est-à-dire la science du hadith, les fondements du droit, la jurisprudence, la théologie, le kalam, etc. Aujourd'hui, l'exégèse va un peu dans tous les sens, comme d'ailleurs le fiqh ou les fatwas vont également dans tous les sens. Il n'y a plus la rigueur qui caractérisait ces disciplines dans le passé, parce que tout le système a connu une implosion. Le système de la pensée islamique classique harmonieuse s'est implosé. Donc, l'exégèse aujourd'hui, elle est éclatée, elle va dans tous les sens, mais on ne peut pas ne pas remarquer qu'il y a des efforts très importants dans le sens d'une exégèse qui tient compte, pour certains versets, pour certaines sourates, etc., des données linguistiques, des données historiques, des données anthropologiques. Et c'est une révolution, véritable révolution, par rapport à l'exégèse traditionnelle. Mais les résultats sont loin d'être suffisants pour le moment. Nous ne sommes qu'au début d'un processus à ce niveau-là. Quant au rapport avec la philosophie, bien sûr, mais pas uniquement la philosophie, la philosophie, l'herméneutique, les sciences humaines en général, ont leur mot à dire dans la culture de l'exégète. On ne peut pas concevoir aujourd'hui un exégète qui n'ait pas une formation moderne. Sinon, on assisterait à ce dialogue de sourds, parce que les gens ne parlent pas le même langage, pas la même langue, mais pas le même langage. Les références étant diamétralement opposés, les gens ne peuvent pas s'entendre. Donc, une exégèse moderne requiert certainement une évolution également des mentalités pour que la nouvelle exégèse ait un écho dans l'esprit du grand public, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, nous ne sommes vraiment qu'au début de ce processus. Quant au rapport avec la mystique, alors, la mystique dans toutes les religions vivantes a sa place. Le problème pour l'islam, c'est que souvent, c'est une mystique qui s'est transformée en maraboutisme, en confrérie, où les rituels prédominent sur le spirituel. Mais, sans parler de l'aspect parfois politique et social. Donc, il y aura toujours des mystiques en islam. Pas uniquement dans le sens d'Ibn Arabi, parce que Ibn Arabi est un homme du XIIIe siècle, mais une mystique qui est un approfondissement des préceptes de l'islam en fonction de la culture d'aujourd'hui.
Bonsoir. Je vous remercie infiniment de cette clarté du discours et puis de cette ouverture que vous nous offrez, ou au moins que vous m'offrez, notamment d'entendre qu'il est possible de contextualiser les versets coraniques. Je trouve que c'est vraiment très très important ce soir. Par ailleurs, je ne sais pas si vous pourrez répondre à la question, mais que pensez-vous de l'installation du CFCM quand on sait tous les problèmes qu'il a eu dès l'origine, qu'il continue d'avoir, et était-ce vraiment nécessaire dans la mesure où, bon, effectivement, je comprends les croyants musulmans, qu'il y ait une institutionnalisation, entre guillemets, de leur religion dans un pays laïque comme la France, et par rapport aux deux autres monothéismes. Mais était-ce bien nécessaire de faire ce type de CFCM? Parce que pour connaître pas mal de croyants musulmans, ils ne se reconnaissent pas dans cette structure. Je vous remercie.
Bon, je pense que c'est une affaire interne à la France. Mais en observateur extérieur, donc je peux avoir une idée là-dessus. Je pense que ça pourrait être une bonne chose si les prérogatives de cette institution étaient bien délimitées à la dimension sociale et communautaire, et n'interfère pas sur tout ce qui est à caractère théologique, interprétatif, etc. Dans ce cas-là, on verrait un clergé musulman autoproclamé, plus ou moins, et personnellement, je suis contre l'idée même d'un clergé musulman qui aura son mot à dire en matière de dogme. Parce que l'islam n'est pas une religion qui reconnaît la médiation d'un corps de ulama, de faqih, de n'importe quel genre de médiation. Non. L'islam est un rapport entre Dieu et l'homme, et je pense que c'est ce risque-là qui existe peut-être, je ne sais pas, mais c'est ce risque-là qui fait que si cela arrive, il y aura une dérive dangereuse pour l'avenir de l'islam en France. Alors que si cette institution tout simplement coordonne les activités sociales des musulmans, ou tout simplement les aide, par exemple, à avoir des lieux de culte décents, pour une visibilité tout à fait apaisée de l'islam en France, dans ce cas, ce serait une bonne chose.
Peut-être la dernière, donc il faut s'arrêter à quelle heure ? Dans 5 minutes, bon. Alors,
oui, bonsoir. Voilà, en fait, vous avez répondu à la question d'une dame. Je pense que vous parliez du monde arabo-musulman sur la façon dont on pouvait toucher un certain public, notamment le public musulman, et essayer de le sensibiliser à cette dynamique de la pensée musulmane moderne. Vous disiez que ça devait passer par les médias et bon, par différents réseaux d'information. Moi, la question que je me pose, c'est pas pour le monde arabo-musulman, c'est pour le monde non-musulman, en particulier la France. Là, enfin, je veux pas préjuger des croyances des gens qui sont dans la salle, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une majorité de musulmans. Je n'ai pas non plus l'impression que dans ce genre de conférence où justement on invite des intellectuels qui sont à même de dynamiser cette pensée, il y ait des musulmans qui soient sensibilisés, sans doute parce qu'ils sont aussi enfermés dans des discours préparés, des courants dont on a parlé hier avec M. Godard. Donc ma question, c'est de savoir quels sont les relais qui permettent à cet intellectualisme d'être plus dynamique, non pas d'une manière générale en dehors de ce monde musulman, mais pour ce public-là, justement, auquel on sert un intellectualisme un peu tout fait, avec des réponses toutes faites, des réponses théologiques toutes faites, où on va leur dire, voilà, la polygamie, c'est ça, le mariage, c'est ça, le cochon, c'est ça. Et dernièrement, j'ai entendu parler du fait que le Coran avait apporté la révolution, l'émancipation de la femme. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de théologiens en herbe qui répondent à la place des intellectuels musulmans, et j'aimerais savoir concrètement comment cette pensée musulmane pourrait toucher ce public qui se laisse aller vers ces courants néo-salafistes et autres. Voilà.
Oui, vous posez une question très importante concernant le manque de relais pour tout ce qui concerne une pensée rénovatrice, une pensée ouverte, aussi bien sur le plan dans le domaine religieux que dans les autres domaines d'ailleurs. Il y a un problème de manque de liberté d'expression dans le pays, et c'est une responsabilité qui n'incombe pas à des personnes, elle incombe à tous ceux qui sont conscients dans nos sociétés pour faire changer, évoluer les choses. Mais à mon niveau, je pense que le plus urgent peut-être, c'est de sortir de ce que j'appellerais un ghetto intellectuel. Beaucoup de musulmans s'enferment dans le cadre d'une pensée traditionnelle qui a ses supposés, qui a ses constances, ils disent, sawabit, et qui ne tient pas compte suffisamment du monde autour de nous, qu'il y a des nouvelles données scientifiques, pas scientifiques dans les sciences dures, bien que ça a ses répercussions sur le domaine de la religion. Par exemple, je pense à la biologie, ou à la chimie, à la physique, et c'est retombé dans la connaissance de l'islam et de la condition humaine. Mais ne sont pas suffisamment au courant des apports des sciences humaines, de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychanalyse, etc. Et sortir les gens de ce ghetto intellectuel est une tâche urgente, parce qu'elle est la seule façon de dépasser le discours ou bien traditionnel ou bien carrément obscurantiste. Là, effectivement, il y a une responsabilité de professeurs dans les lycées, pas uniquement à l'université, la responsabilité des intellectuels d'une façon générale, mais j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est une évidence et elle n'est pas suffisamment remarquée dans la littérature, c'est que les esprits évoluent sous l'influence du mouvement des idées, certes, qui est donc très important, mais les esprits évoluent également et peut-être plus sous l'influence du changement des modes de vie, sous l'influence de la généralisation, de l'industrialisation, sur l'élévation du niveau de vie en général, etc. Donc il faudrait lutter en même temps sur tous ces fronts-là.
Avant de remercier Abdelmajid Charfi, je vous rappelle que demain, donc jeudi 4 octobre, nous irons, grâce aux sciences humaines et sociales, vers l'islam d'Extrême-Orient, et vous verrez qu'il y a des éléments de modernité très intéressants dans cet islam. Merci encore à Abdelmajid Charfi pour votre brillante conférence.